Donc, on va passer à un sujet. Alors, le sujet principal de l'émission, donc éducation et logiciel libre. Enfin, éducation nationale et logiciel libre, je précise. Donc, avec Luc Bourdeau. Luc, tu es responsable du pôle de compétences nationales logiciel libre qu'on appelle le pôle EOL. Et au sein de l'équipe de la plateforme Apps Éducation, dont on va parler en détail aujourd'hui, tu es chargé du pilotage, des développements et de l'intégration des composants libres. C'est bien ça, Luc ?
Oui, c'est ça, oui. Tout à fait.
Alors, donc en tout cas, je te remercie de participer à cette émission. En introduction, bah, c'est peut-être un effet un peu, peut-être inattendu de la crise du Covid-19 et du confinement de la population, parce que le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme donc qui s'appelle apps.education.fr. Alors apps, c'est APPS, qui propose une liste d'outils pour répondre aux besoins du travail à distance pendant le confinement. Et on a voulu en savoir plus, donc on a essayé d'avoir un intervenant et finalement on a réussi donc à t'avoir, Luc, pour parler notamment de cette initiative et puis un peu plus globalement de ce que fait le pôle de compétences nationales logiciels libres, le pôle EOL. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission si vous voulez réagir, poser des questions à Luc. Hein, donc c'est le site causecommune.fm, bouton de chat et le salon libre à vous. Et évidemment, toutes les références dont on va citer aujourd'hui, les sites web, vous les retrouverez sur les pages consacrées à l'émission, sur april.org et sur causecommune.fm. Alors déjà, première question, Luc, peut-être une petite présentation personnelle.
Je m'appelle Luc Bourdeau, je suis un ancien de l'informatique puisque j'ai commencé dans les années 80 par faire du COBOL, hein. Donc je sais pas si ça dit des choses à tes gens, mais voilà, j'étais développeur, donc à l'époque on disait programmeur, et assez rapidement je suis passé sous Unix, qui est quelque part un peu le grand-papa de Linux. Et j'ai fait pas mal de développement système, et c'est comme ça que petit à petit j'ai bifurqué vers une carrière plus orientée système et réseau. J'étais ingénieur système réseau dans l'Académie de Dijon, et dans les années 98 à peu près, il y a eu le projet de raccorder les établissements scolaires à l'Internet, et j'ai été chargé de m'occuper de ça. Et en fait, j'ai constaté à l'époque qu'il y avait quand même un sacré problème de sécurité et de partage de connexion, puisqu'on était en numérique, enfin bon, voilà. Et il n'y avait pas vraiment de solution qui existait. C'est comme ça que m'est venue l'idée de réaliser le pare-feu, un pare-feu pour les établissements scolaires qui s'appelle AMON, qui a donc été le premier module d'EOL. Ce pare-feu avait la particularité de pouvoir faire partager la connexion Internet aussi bien par les administratifs dans les établissements que par les élèves et les enseignants. Comme c'était un projet un peu transversal par rapport aux préconisations du ministère, j'ai été présenter ma solution au ministère en leur disant « ben voilà, moi j'ai l'intention de faire ça » et ils ont trouvé l'idée intéressante. Et plusieurs académies m'ont sollicité pour installer le même genre de solution. Et là, m'est apparue immédiatement la problématique qu'en fait, mettre du Linux, parce que j'avais développé ça sur une base Linux, Mandrake à l'époque, ça allait pas être simple dans les établissements scolaires. Donc, il fallait essayer de trouver des mécanismes pour simplifier l'administration, l'installation et tout. Et c'est de là, en fait, qu'est né le projet EOL pour Ensemble Ouvert, Libre et Évolutif. qui initialement avait pour but de fournir des serveurs Linux prépackagés pour les établissements scolaires.
D'accord. Alors, juste avant de poursuivre et de donner un petit peu les dates, on va préciser qu'un pare-feu, bah, c'est un logiciel ou un ensemble de logiciels qui permet de faire, on va dire, respecter des protocoles de sécurité sur un réseau ou sur une machine. Et deuxième petit point, alors c'est marrant parce qu'on me le fait remarquer sur le salon web de la radio, donc c'est de l'usage du nom GNU Linux. Nous, on préfère évidemment utiliser le terme GNU Linux qui est beaucoup plus large et qui fait référence aussi à l'importance du projet GNU, et je vais renvoyer le podcast de l'émission de la semaine dernière, donc du 28 avril 2020, où Véronique Bonnet, vice-présidente de l'April, avait fait une chronique sur le sujet, donc voilà, et également une émission passée où on avait expliqué les différentes distributions logicielles libres, et celle que tu as citée est une des premières distributions logicielles libres françaises, donc dans les années 98-2000. Alors, ceci précisé, donc le pôle de compétences logicielles libres, donc c'est un pôle qui est donc une équipe du ministère de l'Éducation nationale. Il a été créé où et il est situé donc spécifiquement à Dijon ou il est décentralisé?
Alors en fait, donc si je reprends, effectivement, hein, c'est écrit EOL est une distribution GNU Linux sur notre site, donc ma langue fourche des fois, faut pas m'en vouloir, mais oui, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut faire attention à l'appellation GNU Linux. Donc en fait, ce projet qui était un projet académique, c'est pour ça que j'étais à Dijon, est devenu un projet interacadémique, puisque d'autres académies ont voulu se saisir de cette opportunité de pouvoir sécuriser les connexions Internet des établissements scolaires. Et au début, c'était un projet qui était mené en parallèle, je dirais, de mon autre boulot, quoi. Et avec la montée un peu en puissance de ce projet, en 2003, donc 2 ans, 3 ans après, on va dire que le ministère de l'Éducation nationale a créé une équipe spécifique EOL, donc basée à Dijon, puisque moi j'étais à Dijon. Et au début, on était 3. Voilà, pour développer le projet. Et puis, petit à petit, au pare-feu sont venus se rajouter d'autres modules, hein, pour les établissements, d'autres serveurs. Et l'équipe a grandi petit à petit. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est une équipe de 9 personnes basée à Dijon. Et qui a une vocation, effectivement, on est pôle national de compétences, hein, on travaille au niveau national, et même, je dirais aujourd'hui, on travaille pour plusieurs ministères, et notamment, principalement, avec le ministère de l'écologie, avec qui nous avons un partenariat fort, puisque eux-mêmes ont une équipe EOL au sein de leur ministère, et qu'ils participent financièrement, je dirais, au développement du projet.
D'accord. Donc EOL, tu l'as dit, c'est une distribution, l'objet c'est de produire une distribution GNU Linux. Alors plutôt, on va préciser, orienté serveur, c'est-à-dire c'est pas dédié au poste de travail des personnes au quotidien, c'est plutôt sur la partie serveur, donc pour gérer, comme tu l'as dit, peut-être un pare-feu, des serveurs de clients légers, etc. Donc c'est vraiment orienté serveur. Et quelle fonctionnalité aujourd'hui cette distribution propose?
Alors effectivement, oui, c'est orienté serveur. Parce que on a bien essayé 2-3 fois de proposer des solutions plus poste de travail, mais on n'était pas vraiment suivi sur ce sujet. Donc en fait, on a aujourd'hui comme solution poste de travail, on a quand même une solution qui s'appelle Éclair, qui est une solution qui fait du client léger, en fait. Qui permet d'avoir sur des postes anciens de faire tourner des systèmes Linux, et c'est principalement utilisé dans les écoles, voilà, mais aussi dans certains collèges. Sinon, en plus du système du parent, qui a une vocation de protection à la fois des réseaux, du matériel et des gens, hein, puisque derrière dans les écoles il y a des mineurs, donc c'était important aussi, on offre des serveurs dits pédagogiques qui sont un serveur sur lequel principalement on va trouver des fonctions de contrôleur de domaine pour être en face des solutions propriétaires bien connues, qui peuvent donc les remplacer, hein. C'est basé sur du Samba, hein, pour ceux qui connaissent. Avec en plus dessus la possibilité de faire tourner des applications web pour avoir des services à l'intérieur de l'établissement, mais que aussi au travers du pare-feu, on peut ouvrir sur Internet des services assez classiques, hein, des blogs, de la messagerie, voilà. Et donc ce module qui s'appelle Scribe est aujourd'hui largement déployé. On avait aussi réalisé alors quelque chose de très spécifique pour l'éducation, puisque c'était pour supporter des applications métiers. Donc c'est un module qui s'appelle Horus, hein. On est souvent dans la mythologie égyptienne, qui est utilisé dans une grande partie des établissements scolaires, hein, puisque entre autres il y avait les applications métiers comme la comptabilité qui tournaient dessus. À l'époque, c'était un challenge parce que tout était développé sur du Novell, qui est une vieille solution réseau. Et à un moment donné, le ministère envisageait de virer Novell, et puis le client naturel c'était Microsoft. Et là, il a fallu relever un challenge qui a consisté à dire « mais nous, on peut faire mieux et plus vite que Microsoft ». Et donc, c'est comme ça qu'on a fait le serveur Horus, et qui a été en gros le deuxième serveur important dans EOL. Donc. Et à ça, je rajouterais le plus d'éoles, en fait, parce que comme je l'ai dit, la problématique, c'était d'avoir beaucoup de serveurs dans une académie, dans une région, et d'administrer tous ces serveurs, c'était compliqué. Donc, EOL propose en fait un système qui permet de téléadministrer les serveurs, de les configurer à distance, qui facilite l'installation, la migration, et ce module s'appelle Zephyr. Pour pas être trop technique, je renvoie les gens sur notre site, hein, vous mettrez les liens, tout ça est très, très bien expliqué. Et je dirais que voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, EOL est principalement dans les établissements scolaires, mais pas que, hein. Donc, c'est vraiment du logiciel libre, hein. C'est accessible à tous, téléchargeable en ligne. Et c'est utilisé dans d'autres ministères et dans d'autres instituts de formation privés. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisation. Et vous pourrez aussi voir les statistiques sur notre site. Aujourd'hui, on a 20 000 serveurs actifs, en fait, dans le monde entier, on peut dire, bien sûr, principalement en France et dans les territoires d'outre-mer. Voilà. Donc 20 000 serveurs qui tournent sous GNU Linux et EOL. Juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas dit et c'est important, c'est une métadistribution, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti de rien, on est appuyé aujourd'hui sur la distribution bien connue Ubuntu.
D'accord. Alors justement, sur la partie statistique, c'était une de mes questions. Donc tu dis 20 000 serveurs installés, mais pour qu'on ait une idée de ce que ça la représente, parce que ça paraît évidemment beaucoup, est-ce que ça, quel pourcentage ça représente par rapport aux serveurs qui sont installés, bah, donc dans l'éducation nationale, est-ce que tu as une idée du pourcentage que ça représente?
Ah non. Non,
Bon,
non, j'en
alors
sais rien, parce
on
que
cherchera alors.
en fait, nous, alors, la particularité aussi, c'est de. On est un pôle logiciel libre du ministère de l'Éducation nationale. Donc, on n'a pas de velléité commerciale. Hein. Donc, nous, notre idée, c'est vraiment d'offrir des solutions, les gens les prennent, les utilisent comme ils veulent, sans forcément nous rendre compte, ce qui fait que même les 20 000 que j'annonce, c'est un minimum, c'est-à-dire c'est les 20 000 qu'on connaît, dont 18 000 quasiment qu'on est capable de situer dans des établissements scolaires, parce que les gens ont renseigné ce qu'il fallait pour qu'on puisse les positionner sur une carte. Mais potentiellement, il y en a plus, on ne sait pas en fait. Et
Oui,
on
c'est
n'a
la
pas de
difficulté
licence pour
des.
compter.
Voilà, c'est la difficulté, en tout cas, enfin, les difficultés. C'est une des caractéristiques du fait que ce soit du logiciel libre, c'est que n'importe qui, donc un prof dans une école, peut installer le serveur pour ses besoins ou dans une académie sans en faire référence, enfin, sans vous le signaler. Et donc, effectivement, c'est un minimum ce chiffre-là. Avant de passer au sujet apps.education.fr, qui, je pense, intéresse aussi beaucoup de gens, donc EOL, c'est développé donc par le pôle compétences, le logiciel libre, mais est-ce que c'est développé uniquement par le pôle compétences ou est-ce qu'il y a des contributions externes, que ce soit des personnes physiques ou peut-être des entreprises?
Alors, il y a des contributeurs. Alors, il y a plusieurs types de contributeurs. Il y a je dirais, les contributeurs collègues. Donc, dans les différentes académies, vous avez des informaticiens, hein, puisque on reviendra là-dessus probablement quand on parlera de Apps. Une des particularités de ce ministère, c'est d'avoir des DSI dans chaque région. Donc, c'est un modèle qui est très décentralisé et donc il y a beaucoup d'informaticiens et dans ce cadre-là, on a pas mal de contributeurs, bien sûr, on a une véritable communauté de gens qui nous aident à des niveaux différents. Donc, classiquement, dans le logiciel libre, le premier niveau de contribution, ben, c'est déjà d'utiliser et puis de faire des retours. Donc ça, c'est le premier niveau. Et ensuite, on a des gens qui nous soumettent des patchs et on a même des gens qui ont développé des modules. On a sur notre forge qui est ouverte, on a des produits qui sont portés en contribution, c'est-à-dire qui sont distribués par EOL, mais qui ont été réalisés par d'autres, oui. Et alors après, on a une catégorie un peu particulière qui est, on a travaillé avec des entreprises, dont Easter Egg d'ailleurs, puisqu'ils sont là, je les salue, qui ont même été une des premières boîtes avec qui on a bossé il y a très très longtemps, et puis plus récemment aussi. Donc déjà, on a des collaborations comme ça avec des boîtes qui font du logiciel libre. Et puis aussi des collectivités territoriales qui des fois ont des besoins spécifiques et les font développer. Alors la plupart du temps, ils n'ont pas des moyens en interne. Donc ils font appel à des sociétés aussi qui vont aller développer des choses qui vont être intégrées dans EOL, des améliorations, et que ensuite nous redistribuons. Donc le principe que nous appliquons, c'est si nous sommes associés en amont avec ces développements, ils sont repris par nous dans la distribution et ensuite ils sont maintenus par nous. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a plusieurs collectivités qui ont rajouté des fonctionnalités AEOL qui aujourd'hui sont largement utilisées par les autres.
Bah, excellent, je vais peut-être juste préciser qu'une forge pour les personnes qui écoutent, c'est, on va dire qu'en fait, c'est un site qui permet en fait d'héberger du développement, bah, notamment logiciel, et donc la forge du projet AEOL est donc, comme tu l'as dit, une forge publique sur laquelle en fait toute personne peut contribuer, soit en apportant des corrections de bugs, soit en rajoutant des fonctionnalités, c'est bien ça.
Tout à fait, c'est ça. Et même simplement en nous faisant des suggestions, hein, c'est-à-dire qu'on a des utilisateurs qui viennent, qui nous disent « Ouais, le produit, il lui manque ça. » Et du coup, ça nous permet aussi, parce que c'est important, hein, depuis le début, et on travaille vraiment dans la philosophie du logiciel libre, c'est-à-dire très proche de l'utilisateur. Donc on est présent sur IRC, on a des forums, voilà. Et l'idée, c'est de coller au plus aux besoins des utilisateurs et du terrain. Et donc on est très à l'écoute là-dessus, parce que bon, pour nous la technique ça a toujours été un moyen, hein, c'est pas un but, hein, donc on perd pas de vue qu'on est là pour essayer de faire avancer les choses dans l'éducation en priorité, hein, et que bon, ben pour nous c'est important en tant que fonctionnaire, hein, de contribuer au bien public, quoi, argent public, bien public, tout va bien.
C'est un beau résumé. Je vais quand tu parlais des personnes qui utilisaient, je vais juste en préparant l'émission, donc sur la liste éducation d'April, j'ai envoyé un message en disant qu'on te recevait si des gens avaient des questions, et il y a eu des remarques, et notamment une remarque d'une personne qui dit que s'il y a bien qu'un enseignant, hein, il dit s'il y a bien un pôle qui connaît les logiciels libres et leur utilisation au sein des établissements scolaires, c'est bien AEOL. Et il précise, il est déplorable que ce soit si peu connu de nos décideurs. Je pense qu'on reviendra à la fin sur la question de positionnement entre les informaticiens libristes du ministère et les décideurs, c'est-à-dire les politiques. Mais voilà, je tenais quand même à te faire remonter ce petit retour très positif autour d'AEOL.
Oui, alors pour rebondir justement, parce que aujourd'hui, en parlant d'AEOL, il y a plein de choses qui se racontent, comme quoi je profite d'être à l'antenne, hein, le projet serait en difficulté, qui va être arrêté. Ben non, c'est complètement faux. En fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que effectivement, avec la loi qui a confié, je dirais, la responsabilité des structures informatiques aux collectivités territoriales, un certain nombre d'académies se désengagent. Et que quand les académies se désengagent, des fois, c'est pas compris, parce que les gens ont l'impression qu'AEOL, c'est un produit académique, donc si les académies se désengagent, c'est fini AEOL. Non. Aujourd'hui, on a des rapports avec beaucoup de collectivités territoriales, et c'est vrai que c'est une nouvelle orientation du pôle, où de plus en plus nos interlocuteurs, c'est pas forcément des gens qui travaillent dans l'éducation, c'est de plus en plus des gens qui sont dans les collectivités. Et aujourd'hui, on a des collectivités qui font le choix d'AEOL, et qui vont continuer à travailler avec les outils. Et au niveau du ministère, il est très très clair que cette mission-là, elle continue. C'est-à-dire que c'est pas parce que ce n'est pas de la responsabilité directe de l'éducation d'installer des services pour les établissements scolaires, hein, puisque c'est le boulot des collectivités. Il est quand même de notre rôle de continuer de proposer une solution. Hein. Donc en fait, AEOL est la solution libre proposée par le ministère aux collectivités pour installer dans les établissements scolaires.
Très bien, c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, avec ces répartitions, nouvelles répartitions des rôles, c'est important de préciser donc que AEOL est au service en fait de toutes les structures qui interviennent dans l'éducation. Donc on renvoie évidemment sur le site april.org et sur causecommune.fm, vous retrouverez les références vers le projet AEOL, les différents modules, et n'hésitez pas, la forge publique, n'hésitez pas à y faire un tour soit pour découvrir, pour utiliser, pour contribuer. Et on va aborder le deuxième sujet, qui est le sujet principal en fait de la discussion, que je disais en introduction, que le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé fin avril une plateforme apps.education.fr. Alors je dis bien dévoilé, parce qu'en fait on va revenir un petit peu sur la genèse de ce projet qui n'est pas si nouveau que ça finalement. Mais en tout cas, tout d'un coup, il y a eu des commentaires disant « enfin le ministère de l'Éducation nationale s'intéresse aux logiciels libres ». Alors, on va d'ailleurs revenir sur cette partie de logiciel libre, parce que j'ai quelques questions par rapport justement au positionnement. Alors, mais déjà, première question sur l'historique donc de cette plateforme, de ce projet, donc apps.education.fr. De quand date le projet? Par qui est-il mené? Et quels sont les objectifs de ce projet?
Alors, le projet était, c'est pas effectivement un projet qui est sorti du chapeau là au dernier moment. C'est quelque chose sur lequel il y a des gens qui travaillent depuis un moment. Je dirais que ça fait presque 2 ans en fait que il y a eu une phase pendant presque 1 an de maturation du projet qui est donc mené par la DNE, la Direction du Numérique Éducatif, avec comme sponsor Laurent Leprieur, hein, qui est à la tête de la sous-direction. Et en fait, ce projet, au départ, il a été surtout conduit, je dirais, avec les différentes DSI académiques, pour essayer de déterminer un petit peu les contours fonctionnels, une organisation plus, je dirais, administrative, voilà. Donc, il y a eu des réunions essentiellement avec entre les DSI. À l'époque, il y avait je peux la nommer, c'est Marine Gou qui est chef de projet au niveau de la DNE avec Marine. Et à l'époque aussi, il y avait un Jérôme qui est parti depuis. Ce projet aujourd'hui, il a, je dirais, il est rentré dans une partie plus opérationnelle il y a 1 an hein, en fait. Hein, où là vraiment il y a une équipe qui a été constituée. Donc aujourd'hui il y a Nicolas, Marine, moi, plus 2 designers dits d'intérêt général hein, qui sont mis à disposition par la DNUM du projet. Et ce projet avait pour vocation de fournir des outils numériques principalement libres. Il n'y avait pas d'exclusive, hein. C'était principalement libre, comme on s'était dit, au personnel de l'éducation nationale, personnel administratif et enseignant. Et pas du tout d'aller s'occuper de la relation des enseignants avec les élèves, puisque en gros, fallait pas marcher sur les plates-bandes des ENT, quoi. Voilà. Donc ce projet concrètement a démarré en fin de l'année dernière, principalement suite à des hackathons qui ont été organisés. Alors au Lab 110, pour ceux qui connaissent, c'est une structure du ministère de l'Éducation nationale où il y a eu des réunions avec des utilisateurs pour essayer de déterminer les contours. Parce qu'il y a une démarche de design par les utilisateurs. Et puis le coût vraiment opérationnel, ça a été lors d'un hackathon des administrations organisé par la DNUM, où les premières lignes de code ont été produites lors de ce hackathon. C'était en novembre, je crois, 99. Voilà, donc c'est un petit peu la genèse, sachant que bien sûr on n'avait pas prévu de faire apps bêta là pour le confinement. Non, ben du coup, donc je peux un petit peu expliquer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme je le disais, ce projet avait pour vocation de s'adresser au personnel de l'éducation. Et quand le confinement s'est produit, au début, tout allait bien entre guillemets. Les ENT allaient prendre le relais. Il y avait des tas d'accords qui avaient été signés avec des GAFAM, avec des choses, et tout allait bien. Et puis finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça marchait pas si bien que ça. Il y avait quand même des problèmes. Donc la DNE s'est tournée vers nous pour voir si on pouvait pas essayer de colmater quelques brèches. Alors sachant que moi je suis aussi très impliqué dans les travaux interministériels autour du logiciel libre et que dans ce cadre-là, j'ai monté une plateforme pour les groupes qui travaillent sur le logiciel libre, une plateforme qui s'appelle MIM Libre. Qui est une plateforme interministérielle qui déjà est un portail qui regroupe des services pour les gens qui travaillent autour du socle interministériel logiciel libre. Donc il y avait des pads, il y avait un forum, il y a de la messagerie, du rocket chat, voilà, il y avait tout ça. Donc ces services là qui ont servi un petit peu de modèle pour construire apps en fait. Et du coup quand il y a eu ces problèmes, ce qu'il a fallu faire pour nous, c'était réorienter un petit peu le apps. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau du développement, il y a une branche particulière qui a été créée pour finaliser certaines fonctionnalités et les stabiliser en priorité pour pouvoir sortir une version donc bêta, et aussi une réflexion qui a été menée pour trouver, je dirais, des services et un petit peu colmater les brèches, comme je le disais. Donc pour ce faire, il y a eu un appel qui a été lancé aussi sur nos réseaux internes, je dirais, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une grande participation de plusieurs DSI académiques, hein, qui sont venus nous donner la main. Sinon, ça n'aurait pas été possible de faire ça aussi vite.
Mais en introduction, tu as donné un point qui est intéressant. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'exclusivité logiciel libre et tu as cité Laurent Leprieur. Alors, il se trouve que ça, c'est marrant parce que j'ai vu un courriel de Laurent Leprieur qui a été envoyé à la communauté des informaticiens en DSI, donc Direction des systèmes informatiques, auprès des ministères pour annoncer apps.education.fr un appel à contribution. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce courriel, il est question de services, d'applications, mais le mot logiciel libre n'apparaît jamais. Quand on regarde sur apps.education.fr, ce qui est marrant aussi, c'est que le mot logiciel libre n'apparaît pas. On voit services, sécurisés, utiles, etc. Et quand on va sur les différents outils, comme par exemple Peertube, qui permet de partager des vidéos, quand on va sur Nextcloud, qui permet de partager des documents, pareil, cette notion logiciel libre n'apparaît pas. Alors, j'aurais une question un peu provocatrice. Est-ce que le ministère a honte de se baser sur des logiciels libres, ou est-ce qu'il y a des pressions internes pour pas peut-être faire trop de pub au fait que ce soit des logiciels libres?
Non, je dirais que le ministère n'a pas honte du logiciel libre. D'ailleurs, je veux dire, il faut le savoir que dans les infrastructures du ministère et des académies, c'est 99% de Linux, donc de GNU Linux. Donc voilà, il n'y a pas de honte, et les informaticiens de l'éducation nationale sont sur les parties serveurs, sont habitués à travailler avec beaucoup de logiciels libres. Hein. C'est pas. Par contre, alors moi je suis pas du tout chargé de la com, hein, sur le projet, donc j'ai pas du tout participé à l'aspect rédactionnel de présentation. Ce que je pense, c'est qu'effectivement il n'y a pas non plus la volonté de mettre en avant le fait que ce soit du logiciel libre. Il n'y a ni la volonté de le cacher ni la volonté de le mettre en avant. Peut-être pour éviter justement des polémiques. Donc c'est pas caché, puisque les logiciels sont nommés, cités. Donc on sait très bien que derrière les pads collaboratifs, c'est un produit qui s'appelle CodeIMD, que voilà. Quand on va sur les logiciels eux-mêmes, on va trouver des fois des références justement comme quoi c'est des logiciels libres. Après, pourquoi ça n'a pas été mis en avant, là il faudrait demander effectivement au service de com de la DNE. Mais il n'y a pas non plus de honte, hein. Faut pas non plus, voilà.
Non, mais toi tu n'en as pas honte, mais peut-être que la DNE, donc la direction nationale la direction du numérique éducatif, peut-être que le ministère en a honte. Mais je fais un appel effectivement au service presse. Si le ministre veut s'exprimer ou un responsable de la DNE veut s'exprimer, ça sera avec plaisir. Alors, on va parler des différents services qui sont proposés, mais d'abord on va faire une petite pause musicale. Cette pause musicale va faire plaisir à notre invité suivant, Pierre-Yves Dillard, car c'est un membre d'Easter Eggs qui, au-delà d'être informaticien libriste, fait également de la musique. On va écouter Lost par Emmanuel Saraco. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
venons d'écouter Lost par Emmanuel Saraco, musique disponible sous licence libre licence art libre, excusez-moi. Vous êtes toujours sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et également en DAB+, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Donc nous poursuivons notre discussion sur l'éducation nationale et les logiciels libres avec Luc Bourdeau, qui est donc le responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres, le pôle EOL, et on parlait juste avant la pause musicale de la plateforme apps.education.fr qui propose un ensemble de services donc au personnel de l'éducation nationale en cette période de confinement. Alors, Luc, est-ce que tu pourrais nous lister les services qui sont pour l'instant proposés sur cette plateforme apps.education.fr?
Oui, donc en fait, la première chose, c'est que cette plateforme reste personnalisable. Donc, ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que cette plateforme, elle a été... en fait, c'est pas une plateforme, c'est une plateforme par académie. Donc, 27. Enfin, 28 avec le ministère, puisqu'on a fait une plateforme aussi pour les personnels du ministère. Donc, au départ, l'idée, c'était de proposer quelque chose pour aller très vite, avec des services intégrés, mais... Chaque académie aujourd'hui a la possibilité de rajouter d'autres services ou de les échanger avec ceux qu'on propose. Hein, c'est pour ça que des fois on va avoir des réactions par rapport à cette plateforme qui peuvent sembler incohérentes. C'est parce qu'en fait c'est pas une plateforme, c'est 28 plateformes, hein, avec la personnalisation que peuvent faire les académies. Donc les services qui ont été intégrés de base, il y en a, je sais même plus combien, mais je vais essayer de les reciter sans me tromper. La première, c'est déjà le portail lui-même, hein, qui est donc le développement qui doit permettre d'avoir une entrée principale, et surtout ce qui était ressorti dans les interviews qu'on faisait avec les utilisateurs, c'était la difficulté des gens de retrouver tous les outils. Donc l'idée, c'était déjà en premier lieu de faire une application qui va servir de portail pour tous ces outils, une plateforme de service où chacun va retrouver les différents outils, et en plus ces outils étant en authentification unifiée, c'est-à-dire que une fois qu'on se connecte sur la plateforme, le passage vers les différents services proposés, à quelques exceptions près, se fait sans avoir besoin de se réauthentifier. Authentifié. On est authentifié une bonne fois pour toutes. Ça, c'est aussi une facilité. Donc il y a le pad, ce qui est classiquement, pour ceux qui connaissent, il y en a deux en fait. Il y a Etherpad, qui est une application extrêmement connue. Donc le pad, c'est un outil qui va permettre d'écrire de manière collaborative en ligne, donc à plusieurs. On peut se mettre sur un texte, on peut travailler en même temps sur ce texte. On a intégré un outil peut-être un peu moins connu, mais qui, à mon avis, est plus performant et plus intéressant, qui offre plus de possibilités, s'appelle CodeIMD. Donc lui aussi c'est un pad, mais qui offre des personnalités de présentation peut-être un petit peu plus évoluées. Voilà. Donc deux services d'écriture collaborative, et ensuite qui permettent de republier éventuellement vers des gens qui eux ne seraient pas connectés, hein. Donc on peut créer du contenu à plusieurs et le mettre à disposition d'autres personnes simplement en diffusant le lien, l'URL du contenu qu'on a créé. Un service de blog qu'on a intégré dans notre plateforme parce qu'on voulait quelque chose de très très simple. Donc ça veut dire que quand vous êtes connecté dans la plateforme, vous avez un espace publication qui va vous permettre de là aussi de créer du contenu. Alors c'est pas coopératif collaboratif, donc là vous créez votre contenu tout seul, et ensuite la totalité de ce contenu est exposée sur une simple page avec l'entrée principale était le nom de la personne en fait, hein. Du coup c'est très très simple. Donc si votre maîtresse d'école s'appelle Madame Pervenche, bah vous cherchez Madame Pervenche et vous allez trouver immédiatement tout ce qu'elle a publié pour vous. Voilà, donc on voulait quelque chose de simple. Il y a un service, alors pareil, logiciel libre, hein, Nextcloud, donc qui est un service, je sais pas comment le qualifier parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Nextcloud, mais principalement de partage de documents, je dirais, hein, même si à l'intérieur il y a plein de fonctionnalités plus riches, mais son principale fonction, c'est ça, c'est de pouvoir partager des fichiers, des documents.
NetExclude, c'est une plateforme collaborative qui, effectivement, au départ, a surtout été connue pour le site d'hébergement de fichiers, mais qui propose beaucoup de choses. Hein. Tu peux synchroniser des contacts, tu peux mettre des images. Enfin, il y a vraiment pas mal de fonctionnalités. Il y a même un outil de visioconférence qu'on a, par exemple, d'ailleurs, utilisé dans le cadre de l'émission. Donc, il y a plein de fonctionnalités. D'ailleurs, je répète une question sur NetExclude d'après, mais je te laisse finir la liste des services proposés.
Ouais, donc effectivement, Nextcloud permet de faire pas mal de choses, mais nous, on n'a pas forcément activé aujourd'hui toutes les fonctionnalités à l'intérieur du Nextcloud. On l'a vraiment vu comme plutôt pour stocker et partager des fichiers, d'accord? Enfin, des fichiers que ça peut être du texte, des images et du son, voilà. Donc, en parlant après de médias, il y a le Peertube, donc je pense bien connu des libristes. Qui est un produit qui a été développé par l'association Framasoft et qui est Peertube, on va dire, allez, le concurrent de YouTube, n'est-ce pas? Donc le but, c'était de permettre aux enseignants d'avoir un espace où ils peuvent publier leur contenu vidéo, hein, qu'ils réalisent, et ensuite de le partager. Alors, je le dis tout de suite, on est en rapport avec l'association Framasoft et ça va déjà permettre de dire que le ministère contribue au développement de Peertube, puisqu'on a fait réaliser, c'était aujourd'hui Peertube ne permettait pas justement de faire ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'authentification unifiée, puisque les protocoles d'authentification, c'est un petit peu technique, mais les protocoles dans Peertube ne permettaient pas, et donc le ministère a financé ces fonctionnalités supplémentaires, donc qui vont être bien sûr remises à disposition de tous.
Donc, c'est une excellente nouvelle, ça.
Voilà. Cette plateforme donc va servir à publier des vidéos. Voilà.
Et il y a aussi un forum, si je me souviens bien. Peut-être tu en as déjà parlé, excuse-moi.
Non, j'en ai pas parlé. Donc effectivement, il y a un forum aussi. Alors bon, on voit par exemple qu'entre le forum, les pads, les blogs, il peut y avoir l'impression d'un peu de redite. Mais pour nous, c'est des approches un peu différentes et on voulait voir comment les utilisateurs allaient s'en emparer, qu'est-ce qui leur semblerait le plus judicieux. Hein. Le but, c'était pas non plus d'être trop contraignant vis-à-vis des utilisateurs. Donc en fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour qu'un enseignant communique avec sa classe ou avec les parents, en gros, il peut passer par les pads, il peut passer par les blogs et il peut passer par les forums. Après, c'est son choix, hein. Il fait comme il veut. Et on verra, nous, à l'usage, si certains services sont pas du tout utilisés, on ajustera. Ça a été dit dans le communiqué un petit peu. Il faut bien comprendre que le projet Beta Apps, là, bien sûr, il sert à répondre au confinement, mais on aurait pu le faire autrement. On a décidé d'utiliser quand même les mécanismes Apps parce que ça nous semblait cohérent d'obtenir des retours d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a nos deux designeuses d'intérêt général qui sont à la recherche et qui mènent des entretiens avec des utilisateurs dans toutes les académies, en fait. Hein. Donc, il y a eu un appel à volontariat sur les plateformes type T-Shap, par exemple. Et ça nous sert aussi de galop d'essai, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, on est en train de regarder comment les utilisateurs s'emparent de ces outils, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils trouvent bien, qu'est-ce qu'ils trouvent pas bien, et toutes les suggestions qu'ils pourront nous faire, voilà.
C'est une excellente démarche qui rappelle sans doute un peu la démarche agile que vous pratiquez, je crois, à EOL et dont on a parlé dans une émission récente de Libre à vous. Alors le temps il file très très vite et il nous reste quelques minutes. Oui. Ça me fait penser ton dernier commentaire sur le fait que sur le site de Apps, on voit marqué que les services proposés sur la plateforme sont temporaires afin de répondre aux demandes dans le cadre de la situation sanitaire actuelle, donc et le confinement. Donc se pose évidemment la question de la pérennité de ces applications. Est-ce qu'elles vont être pérennes, relancées ultérieurement pour être définitivement en ligne indépendamment de la période de confinement, et aussi de la question du transfert de la sauvegarde des documents qui pourraient être déposés d'ici la fin de l'année scolaire sur cette plateforme. Donc la question de la pérennité.
Alors, c'est une excellente question. Je te remercie de me l'avoir posée, comme on dit. Donc, en fait, il y a eu, à mon avis, une petite erreur de communication de notre part en disant que on a mis dans le bandeau, attention, c'est temporaire, même si juste en dessous, on dit que les services ont vocation à être pérennisés. Et, mais les gens, souvent, se sont arrêtés au premier truc en disant, mais alors, tout va s'arrêter. Non, tout va pas s'arrêter. Ce qu'il faut comprendre, c'est la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que aujourd'hui, le projet Apps, et de bientôt, vous aurez accès à je dirais, le Apps final en mode bêta avec d'autres fonctionnalités pour tester, était hébergé dans des infras qui propre à l'éducation nationale, qui n'était pas dimensionné du tout pour accueillir potentiellement la totalité des académies et des enseignants qui en auraient besoin. Donc c'est pour ça que la DNE s'est tournée vers des partenaires extérieurs, en l'occurrence je peux les citer, hein, Scaleway et OVH, pour héberger ces services, puisque nous on n'avait pas ces compétences, enfin ces capacités rapidement en interne, puisque notre plateforme aujourd'hui elle n'est pas dimensionnée pour ça. Donc du coup, s'est posé la question aussi de, on n'avait pas eu le temps vraiment de faire un certain nombre de tests. Hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur des plateformes par académie plutôt qu'une plateforme nationale. C'était une façon pour nous de savoir que la montée en charge serait quand même moins violente qu'en voulant présenter directement une plateforme nationale. On n'avait pas eu le temps de faire tous les tests, donc on n'a pas voulu prendre ce risque. Donc on est parti sur une plateforme, je dirais, par académie. À partir de là, donc, ce qui est clair, c'est que le projet Apps, lui, il a vocation à continuer après le confinement. Mais comme je l'ai dit, nous avons fait un certain nombre d'adaptations pour ce confinement. Donc, en premier lieu, le côté relation enseignant-élève n'est pas du tout dans les objectifs de la plateforme Apps définitive. La plateforme Apps définitive, les enseignants pourront bien sûr l'utiliser pour travailler entre eux, favoriser le travail collaboratif entre eux, mais pour l'instant, il n'est pas dans la cible que ce soit une plateforme qui serve directement, en tout cas, à la relation avec les élèves. Elle pourrait être utilisée pour commencer à préparer des contenus qu'on partagerait ensuite avec d'autres outils, mais il n'est pas prévu que les élèves se connectent directement sur les plateformes Apps. Voilà. Donc du coup, effectivement, la pérennité des données, aujourd'hui, on ne sait pas la garantir. Déjà parce que, en termes d'infrastructure, on va changer. On va passer d'un hébergement externalisé à quelque chose de réinternalisé probablement. Que aujourd'hui, on a 28 plateformes qu'il va falloir ramener dans une seule et que les informaticiens savent bien les problèmes que ça pose en termes d'unicité, des identifiants et tout ça. Donc c'est pas une opération qu'on peut garantir. Par contre, on fera de notre mieux pour que ça soit, je dirais, possible au maximum. C'est-à-dire que c'est classique, hein, c'est une version bêta, c'est-à-dire une version bêta, en gros, on est en best effort, on fait au mieux, mais il y a des choses qu'on peut pas garantir. Donc on préférait prévenir les gens en leur disant ce que vous allez mettre dans le Nest Cloud, de toute façon, il y a des mécanismes de synchronisation, il vaut mieux que vous gardiez une copie synchronisée chez vous, et de toute façon, ça reste un conseil valable tout le temps, de garder des copies chez vous. Mais on fera au maximum, mais aujourd'hui, on sait pas exactement ce qu'on sera capable de faire. Donc, probablement, par exemple, que les vidéos qui seraient sur des Peertubes, vu que Peertube a déjà un mode fédéré, on devrait arriver à récupérer, mais c'est pas évident. Et puis aussi, ça va dépendre, je dirais, de l'utilisation qui va en être faite. Hein. S'il y a des gigas, des terras et des terras et des terras de données, ça peut aussi être compliqué à traiter. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens devront probablement récupérer des choses chez eux et les redéployer après. En tout cas, on mettra en place des mécanismes pour être capable, par exemple dans les blogs, dans les pads, que les gens puissent réimporter toutes leurs données pour faciliter une republication ultérieure dans d'autres outils si on n'était pas capable de le faire automatiquement. Voilà.
D'accord. Avant dernière question, je pense, est-ce qu'il est prévu une formation pour le personnel enseignant qui a l'habitude sans doute d'utiliser d'autres outils ou en tout cas qui va découvrir de nouveaux outils, est-ce qu'il y a de la formation qui est prévue?
Alors oui, c'est déjà en place. Alors c'est en place, on va dire, non, je vais être plus précis, ça se met en place. Donc on a fait appel à la communauté et il y a beaucoup de tutos qui ont été réalisés. Donc la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous les tutoriels qui ont été réalisés essentiellement par des profs d'ailleurs, sont dispersés sur les différentes plateformes. Et là, il y a un travail qui est fait en ce moment pour essayer de tout regrouper et d'avoir à un moment donné un affichage cohérent de tous les tutoriels qui sont réalisés. Donc déjà, par exemple, sur le Peertube, c'est fédéré, il y a moyen de voir qu'il y a quand même déjà pas mal de vidéos qui ont été faites pour aider. Et donc l'assistance, en fait, elle sera absolument pas réalisée par l'équipe. L'équipe Apps, c'est une équipe qui va éditer le logiciel, mais le soutien, je dirais, sera fait par les académies elles-mêmes. Donc là, les académies s'organisent pour voir comment elles vont pouvoir. Alors les académies, les DSI et bien sûr les DAN. Hein, les DAN, c'est les délégués académiques au numérique éducatif. Donc s'organisent pour soutenir les enseignants dans l'utilisation de la plateforme.
D'accord. Dernière question. Si en moins de 2 minutes, tu devais un petit peu résumer Apps ou donner envie, ou les éléments clés peut-être à résumer en moins de 2 minutes.
Ouais, chouette exercice.
Je sais.
Non, Apps, en fait, là, je vais essayer de ne pas trahir de secret, mais quand même, la volonté de l'équipe, c'est vraiment aussi au-delà de ce qu'on va proposer, c'est aussi d'emmener dans ce ministère une démarche un petit peu différente et qui est pas cachée non plus, hein, qui est soutenue. Hein, le sponsor de la DNE, il est au courant. Et cette démarche consiste effectivement à faire du design avec les utilisateurs. C'est pour ça qu'il y a eu des hackathons. Donc l'idée, c'est d'aller à la rencontre des utilisateurs, pas attendre désir d'avoir le produit parfait. Donc les critiques, elles sont recevables. On sait bien qu'il y a plein de choses qui sont pas complètement secs, comme on dit chez nous, hein, mais on l'écoute. Donc d'avoir une démarche vraiment proactive avec nos utilisateurs, d'aller très très vite dans la livraison des produits justement pour les améliorer avec eux, et puis bien sûr de pousser au maximum les produits libres. Et donc, juste peut-être pour préciser, revenir sur la notion de produit libre, ce qui est réalisé par l'Éducation nationale, donc en l'occurrence le portail, c'est disponible sur le GitLab en fait. Donc dans les annonces souvent, vous trouverez le lien. Donc c'est ouvert à contribution. Les recettes pour déployer le discours, ça a été fait avec du Salt, c'est disponible aussi sur notre GitLab. Et la plupart des services, donc là je suis un peu technique, mais c'est hébergé avec des conteneurs Docker, et donc toutes les formules Docker Compose sont aussi disponibles. Ce qui veut dire qu'en gros, si quelqu'un a envie de monter un chaton à partir de ces produits-là, il n'a qu'à aller chez nous, télécharger, et puis voilà, c'est faisable.
Écoute, Luc, je te remercie. Tu viens de parler des chatons. Je rappelle que les chatons, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, dont on a déjà parlé dans l'émission. Et le site, c'est chaton avec un s.org. Ce que tu expliquais à la fin renvoie à la thématique le modèle de développement de l'agilité dont on a parlé récemment. Je crois que c'est le 24 mars avec Alexis Monville. Et en tout cas, je voulais te remercier de ton intervention et aussi rappeler que on critique très souvent les différents gouvernements qui se succèdent par rapport à leurs accords cadres Microsoft et autres GAFAM, c'est-à-dire les géants du web. Il faut aussi rappeler que l'État n'est pas monolithique. Il y a des gens comme toi qui travaillent en interne pour faire avancer l'usage et le développement des logiciels libres, mettre en place des services basés sur du libre et donc apporter des libertés. Donc vraiment bravo aux personnes qui font ça en interne. Et Luc, je te remercie. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler un peu de Apps quand vous aurez justement un retour d'ici quelques semaines, quelques mois. Et j'espère qu'on pourra en parler d'ailleurs avec d'autres personnes de l'équipe en plus de toi. Ça me ferait très plaisir, notamment par exemple tu as cité Marine Gou, ça me ferait très plaisir d'avoir Marine Gou et toi dans l'émission.
Alors en plus ça serait vraiment bien si ça pouvait être en présentiel.
On espère que ça sera en présentiel, on attendra que ça soit possible en présentiel, donc ce sera pas tout de suite en tout cas, mais en tout cas c'était un plaisir. Donc c'était donc Luc Bourdeau, donc qui est responsable du pôle de compétences nationales logiciels libres du ministère de l'Éducation nationale, donc le pôle EOL, et au sein de l'équipe de la plateforme donc apps.education.fr, Luc est chargé du pilotage, des développements et de l'intégration des composants libres. Luc, je te souhaite une bonne fin de journée, et puis à bientôt.
Merci à vous, au revoir.